Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le cycle humain de Sri Aurobindo, le chapitre 15, qui se nomme « Le bien suprarationnel ». Derrière le principe et la loi de notre être religieux comme derrière le principe et la loi de notre être esthétique, nous commençons à entrevoir l'universalité d'une loi et d'un principe commun à tous les êtres, et nous devons donc les garder fermement à l'esprit quand nous examinons toutes les activités humaines. Ce principe et cette loi reposent sur une vérité que les sages ont de tout temps reconnue. Bien que les penseurs intellectuels puissent toujours la contester. Cette vérité est que toute existence active est une quête de Dieu. La quête du moi supérieur, d'une réalité plus profonde, secrète en nous, dans les choses et derrière et au-dessus. Une quête de la divinité cachée. La vérité que nous entrevoyons derrière la religion se trouve dissimulée derrière toute la vie. C'est le grand secret de la vie, celui qu'elle s'efforce de découvrir et de rendre réel à sa propre connaissance. La quête de Dieu est aussi subjectivement la quête de notre moi le plus haut, le plus vrai, le plus complet et le plus vaste. C'est la recherche d'une réalité que masquent les apparences de la vie, parce qu'elle ne l'exprime que partiellement ou qu'elle l'exprime à travers des voiles et des images, par des oppositions et des contraires. Souvent même, par ce qui paraît être des perversions et des contradictions du réel. C'est la recherche de quelque chose dont la plénitude ne s'obtient que par la perception concrète et pénétrante de toute chose, de l'infini et de l'absolu. Et cette perception ne peut s'établir d'une façon intégrale que quand nous découvrons une valeur d'infini dans toutes les choses finies et que nous nous efforçons, effort nécessaire, inévitable, bien qu'il puisse paraître impossible ou paradoxal à la raison normale, de hausser toutes les relativités de leur absolu et de réconcilier leurs différences, leurs oppositions et leurs contradictions en les sublimant et en les élevant à un niveau supérieur où tout, elles sont toutes unifiées. Car il existe un niveau supérieur parfait, par lequel tous nos niveaux inférieurs imparfaits peuvent être justifiés et toute leur dissonance harmonisée, pour peu que nous puissions les persuader de devenir des expressions conscientes de ce principe supérieur et de ne plus exister pour eux-mêmes, mais pour cela, comme des valeurs auxiliaires de cette vérité suprême. Des fractions de cette suprême et vaste commune mesure. L'un existe, en lequel toutes les discordances enchevêtrées de cette multiplicité d'idées, de forces, de tendances, d'instincts, d'impulsions, d'apparences et d'aspects séparés se contredisent, s'entremêlent et se heurtent. Ce que nous appelons la vie peuvent trouver l'unité de leur diversité, l'harmonie de leur divergence, la justification de leurs revendications, la rectification de leurs perversions et de leurs aberrations, la solution de leurs problèmes et de leurs querelles. La connaissance cherche cet un, afin que la vie puisse connaître son propre sens véritable et se transformer en l'expression la plus haute et la plus harmonieuse possible de la réalité divine. Tout cherche cette réalité divine. Tous les pouvoirs de notre être, chacun à sa manière, la poursuivent à tâtons. L'infrarationnel chemine vers elle aveuglément en suivant ses instincts, ses besoins, ses impulsions. Le rationnel lui tend le piège de sa logique et de son ordre, explore et collectionne ses diversités, les analyse afin de les synthétiser. Le suprarationnel va derrière les choses, au-dessus des choses et au fond de leur être le plus intime, afin de toucher et de saisir la réalité même en son cœur et en son essence, et d'illuminer dans tous les détails infinis depuis ce centre secret. Là, nous ne sommes plus contraints à chaque pas de transiger avec quelque grossière revendication matérielle ou quelque nécessité vulgaire mais inévitable de l'heure et du moment. Nous avons le temps de respirer et le loisir de chercher le réel derrière l'apparent. Il nous est permis de détourner notre regard du temporaire et du transitoire, ou à travers le temporel lui-même, et de le tourner vers l'éternel. Nous pouvons nous engager, nous dégager des limitations pratiques immédiates et recréer nos âmes au contact de l'idéal et de l'universel. Nous commençons à secouer nos chaînes. Nous nous libérons de l'aspect carcéral de la vie où la nécessité est le geôlier et l'utilité un éternel tyran. Nous avons accès aux libertés de l'âme. Nous entrons dans l'infini royaume de beauté et de félicité divine, où nous nous saisissons des clés de l'absolue découverte de soi et nous nous ouvrons à la possession et à l'adoration de l'Éternel. C'est là qu'est la valeur immense de la religion, la valeur immense de l'art et de la poésie pour l'esprit humain parce qu'ils ont un pouvoir immédiat de vérité intérieure, d'élargissement de soi et de libération. Mais nous sommes beaucoup moins disposés à reconnaître la vérité universelle en d'autres sphères de la vie, en particulier dans celle que, par une ironie de notre ignorance, nous appelons la vie pratique. Car si le divin est le véritable objet de notre recherche et de notre réalisation, notre conduite normale et nos idées courantes en ces sphères sont tout le contraire des pratiques. Il nous faut fort longtemps pour admettre la vérité universelle, même partiellement. Même en théorie et dans la pratique, Nous sommes rarement prêts à la suivre. Notre difficulté vient de ce que tout spécialement dans notre vie pratique, Nous acceptons d'être les esclaves d'une nécessité extérieure et nous croyons toujours avoir une excuse quand nous admettons comme loi de notre pensée, de notre volonté et de notre action le joug des utilités immédiates et temporaires. Et pourtant là, nous devons finalement parvenir à la vérité la plus haute. Un jour, nous finirons par reconnaître que notre vie quotidienne et notre existence sociale ne sont pas un monde à part, un autre champ d'existence soumis à une autre loi, différente de la loi intérieure et idéale. Au contraire, nous ne découvrirons jamais le sens véritable de notre vie quotidienne et sociale. Nous ne résoudrons jamais ces problèmes âpres et souvent déchirants tant que nous n'aurons pas appris à voir en elles un moyen de découvrir et d'exprimer individuellement et collectivement notre moi le plus haut et aussi le plus vrai et le plus complet. Parce que le plus haut est par conséquent notre principe et notre pouvoir d'existence les plus vastes et les plus impérieux. La vie tout entière est simplement une innombrable et somptueuse occasion qui nous est donnée de découvrir, réaliser et exprimer le divin. C'est dans l'être éthique qu'on perçoit le plus facilement la vérité profonde de la vie pratique et son caractère pratique réel et supérieur. L'homme rationnel a bien essayé de réduire la vie éthique, comme tout le reste, à une affaire de raison et de déterminer sa nature, sa loi, son action pratique par un principe rationnel, une loi de la raison. Il n'y a jamais vraiment réussi et ne pourra jamais y réussir vraiment. Ses succès apparents sont seulement des faux-semblants de l'intellect qui bâtit des constructions élégantes et vides avec des mots et des idées et des pures conventions de la logique, des synthèses faites de bribes et de morceaux, en somme, des échecs prétentieux qui s'écroulent au premier contact vigoureux de la réalité. Telle fut cet extraordinaire système de morale utilitaire, maintenant discrédité à juste titre, découvert par l'une des intelligences les plus positives et les plus systématiques du 19e siècle, le grand siècle de la science, de la raison et de l'utilité. Heureusement, nous n'avons plus aujourd'hui qu'à sourire de ces erreurs creuses et prétentieuses qui croyaient pouvoir subsister un critère pratique, extérieur, circonstanciel au motif intérieur, subjectif et absolu de l'éthique, et réduire l'activité éthique à une jonglerie d'arithmétique morale, exercice scientifique impossible et tout à fait irréalisable. Assez séduisante pour le mental raisonnant et logique, mais complètement fausse et étrangère à l'instinct et à l'intuition de l'être éthique. Également faux et irréalisables sont les autres efforts de la raison pour expliquer et réglementer le principe de l'éthique et de ses phénomènes. Telle la théorie hédoniste qui ramène toute vertu à un plaisir, à une satisfaction mentale du bien ou la théorie sociologique qui suppose que l'éthique n'a rien d'autre qu'un système de formules de conduite née du sens social ou une réglementation dirigée par des impulsions sociales et qui voudrait régler les activités morales selon cette norme insuffisante. L'être éthique échappe à toutes ces formules. Il est lui-même sa propre loi et il trouve son principe dans sa propre nature éternelle qui essentiellement n'est pas un produit du mental en évolution, même s'il peut paraître tel dans son histoire terrestre, mais une lumière issue de l'idéal, un reflet du divin dans l'homme. Chacune de ces erreurs, pourtant, recèle une vérité derrière ces constructions fausses, car toutes les erreurs de la raison humaine sont des représentations fausses de la vérité, des constructions erronées et des véritables contresens de la vérité ou d'un aspect ou d'une partie de la vérité. L'utilité est un principe fondamental de l'existence et tous les principes fondamentaux de l'existence sont finalement un. Il est donc vrai que le bien le plus haut est aussi la plus haute utilité. Il est vrai aussi que le bien d'autrui est plus généralement le bien de tous et non quelques arithmétiques du plus grand bien pour le plus grand nombre. Est l'un des buts idéaux de notre pratique morale extérieure. Et c'est cela que l'homme éthique aimerait réaliser, si seulement il pouvait en trouver le moyen et être toujours sûr de ce qu'est réellement le bien de tous. Mais cela ne nous aide pas à régler notre pratique éthique, ni ne fournit son principe intérieur d'être ou d'action. Nous n'arrivons ainsi qu'à l'une de ces nombreuses recommandations qui nous laissent tâtonner sur cette route si difficile à parcourir. Le bien, non l'utilité, doit être le principe et la mesure du bien, sinon nous tombons entre les mains de ce prétendant dangereux, l'opportunisme, dont la méthode entière est étrangère à l'éthique. En outre, les normes de l'utilité, les appréciations de l'utilité, son esprit, ses formes, ses applications doivent nécessairement varier selon la nature individuelle, les habitudes mentales, la vision du monde. Dans ce domaine, il n'existe pas et ne peut pas exister de loi générale sûre à laquelle tout puisse souscrire, ni de recueil de grands principes directeurs comme ceux qu'une éthique véritable aimerait dicter à notre conduite. Par ailleurs, l'éthique n'est et ne pourra jamais être d'aucune façon une affaire de calcul. Il n'y a qu'une règle sûre pour l'homme éthique, c'est de s'en tenir à son principe du bien, à son instinct, sa vision, son intuition du bien, et de diriger ainsi sa conduite. Il peut se tromper, mais il restera sur la bonne route en dépit de tous les faux pas, parce qu'il sera fidèle à la loi de sa nature. La parole de la Gita est toujours vraie. Meilleure est la loi de notre nature, même mal accomplie. Dangereuse est une loi étrangère. Si trompeusement supérieure puisse-t-elle sembler à notre raison. Or la loi de la nature, de l'être éthique, est la poursuite du bien. Ce ne peut jamais être la poursuite de l'utilité. Bhagavad Gita 3.35. Shobindo dit « Mieux vaut suivre sa propre loi, fut-elle médiocre, que la loi d'autrui, fut-elle meilleure. » Ce n'est pas non plus la poursuite du plaisir, qu'il soit élevé ou vil, notre propre satisfaction sous aucune forme, fut-elle subtile ou même spirituelle, qui peuvent constituer la loi de l'être éthique. Il est vrai aussi, ici, que le bien le plus haut est aussi la plus haute félicité de par sa nature et ses bienfaits extérieurs. L'ananda, la joie d'être, est la source de toute existence. C'est vers elle que tend l'existence et c'est elle que l'existence cherche ouvertement ou secrètement à travers toutes ses activités. Il est vrai aussi qu'à croître en vertu, à faire le bien, on éprouve un grand plaisir. Et que la recherche de ce plaisir peut toujours être présente comme un mobile subconscient de la poursuite de la vertu. Mais pratiquement, c'est un aspect secondaire de la question. Et ceci et cela ne suffit pas à faire du plaisir une preuve ni un critère de la vertu. Bien au contraire, la vertu chez l'homme naturel née d'une lutte contre sa propre nature en quête de plaisir. C'est souvent une acceptation délibérée de la douleur, un accroissement de force par la souffrance. Nous n'embrassons pas la douleur et la lutte pour le plaisir de la douleur et le plaisir de la lutte. Car bien que l'esprit secret en nous sente cette félicité supérieure, exigeante, elle n'est pas habituellement perçue, du moins au début, dans la partie normalement consciente de notre être qui est le champ de la lutte. L'action de l'homme éthique n'est pas motivée par le plaisir, même intérieur, mais par un appel de son être, par l'exigence d'un idéal, l'image d'un principe absolu, par une loi du divin. Dans l'histoire extérieure de notre ascension, les véritables motifs de l'activité éthique n'apparaissent pas clairement au début, peut-être même n'apparaissent-ils pas du tout. Et l'évolution de l'homme en société peut sembler être ici la cause déterminante de son évolution éthique. Car l'éthique commence seulement à partir du moment où l'on exige de l'homme quelque chose d'autre que ses préférences personnelles et son plaisir vital ou son intérêt matériel particulier. Or, cette exigence semble tout d'abord lui être imposée par les nécessités de ses relations avec autrui et par les obligations de son existence sociale. Mais ce n'est pas là le fond du problème. Nous en voulons pour une preuve que les exigences éthiques ne s'accordent pas toujours avec les exigences sociales, ni les normes éthiques avec les normes sociales. Au contraire, l'homme éthique est souvent appelé à rejeter les exigences sociales et à se battre contre elles, à briser, renverser ou abandonner les normes sociales. Ses relations avec autrui et ses relations avec lui-même sont les unes et les autres les occasions de son développement éthique. Mais ce qui détermine son être éthique, ce sont ses relations avec le divin. C'est l'appel du divin en lui, qu'il soit caché dans sa nature ou conscient, dans son moi supérieur ou dans son génie intérieur. Il obéit à un idéal intérieur, non à une norme extérieure. Il répond à la loi divine en son être, non à une exigence sociale ou à une nécessité collective. L'impératif éthique ne vient pas du dehors, ni d'alentour, mais du dedans et au-dessus. On disait jadis, et l'on sentait que les lois du bien, les règles de la conduite parfaite étaient les lois des dieux éternels au-delà dont l'homme était conscient et auxquelles il était sommé d'obéir. L'âge de la raison a repoussé avec mépris cette explication sommaire, telle une superstition ou une imagination poétique que la nature et l'histoire du monde contredisaient. Mais derrière cette superstition ou imagination antienne, il y a pourtant une vérité que le démenti rationnel laisse échapper et que ne rétablissent pas complètement les confirmations rationnelles, fût-ce l'impératif catégorique de Kant ou de quelqu'un d'autre. Si la conscience morale de l'homme est une création de la nature humaine en évolution, et si ses conceptions de la loi éthique sont changeantes et dépendent du stade de son évolution, il y a cependant à leur base et sous tout leur changement quelque chose de constant qui est à la source même de la nature humaine et de la nature du monde. Et si chez l'homme et dans le monde, la nature est infra-éthique à ses débuts, ainsi qu'infra-rationnelle, de même qu'elle est supra-éthique à son sommet, autant que suprarationnel, il y a cependant dans l'infra-éthique quelque chose qui vient de l'éthique sur le plan de l'existence humaine. En bas se cache le secret du bien en toute chose, que l'être humain essaye de saisir et de délivrer partiellement par son instinct et ses idées éthiques. En haut se cache le bien éternel qui dépasse nos conceptions éthiques partielles et fragmentaires. Nos impulsions et nos actes éthiques, comme tout le reste, commencent au niveau infrarationnel et émergent du subconscient. Alors Sri Aurobindo met un nota bene pour Sri Aurobindo. Les divisions de la conscience suivent l'ascension évolutive. ce qui paraît logique, puisque c'est dans la matière, et à partir d'elle que les degrés de conscience de plus en plus hauts se sont développés. L'inconscient représente donc notre base matérielle et corporelle. Mais cette inconscience recèle une conscience secrète qui devient peu à peu consciente d'elle-même au cours de l'évolution. Le subconscient représente les niveaux inférieurs de l'évolution subconscient ou imparfaitement conscient. C'est notre passé évolutif. Le supraconscient représente les degrés de conscience qui ne sont pas encore entrés dans notre conscience normale, sauf chez des êtres d'exception ou à des moments exceptionnels. C'est notre avenir évolutif. Car l'être éthique, comme toutes les autres parties de notre être, croit vers l'absolu et en quête de l'absolu, du divin, qui ne peuvent être atteints de façon sûre que dans le supra-rationnel. L'être éthique tend à une pureté absolue, un bien absolu, une vérité absolue, une force absolue, un amour et un don de soi absolu. Et il est parfaitement satisfait quand il peut les posséder dans une mesure absolue, sans limite, sans frein ni compromis, divinement, infiniment, dans une sorte de divinisation et de transfiguration de son être. La raison s'intéresse surtout à ce qu'elle comprend bien, aux procédés apparents, aux mécanismes, à l'acte extérieur et à ses résultats, ses effets, ses circonstances, ses mobiles. C'est par eux qu'elle juge de la moralité de l'action et de la moralité de celui qui agit. Mais l'être éthique développé sait instinctivement que c'est quelque chose d'intérieur qu'il cherche et que l'acte extérieur est seulement un moyen de dégager et de manifester en nous par ses effets psychologiques cette entité intérieure absolue et éternelle. La valeur de nos actions ne réside pas tant dans leur nature apparente et leurs résultats extérieurs que dans l'aide qu'elles apportent à la croissance du divin en nous. Il est difficile et même impossible de légitimer pour des raisons extérieures, la justice de l'absolu, le bien absolu, la pureté, l'amour et le désintéressement absolu d'une action ou d'une ligne de conduite, car l'action est toujours relative, ses résultats sont incertains, mélangés et les circonstances qui l'accompagnent sont confuses. Mais il est possible de rattacher l'être intérieur au bien éternel et absolu, de faire en sorte que nos perceptions et notre volonté s'en pénètrent afin d'agir selon son impulsion, ses intuitions et ses inspirations. C'est vers cela que tendent les efforts de l'être éthique, et c'est cela que l'homme éthique supérieur atteint graduellement par ses efforts intérieurs. En fait, l'éthique n'est pas essentiellement un calcul du bien et du mal dans l'action, ni un effort laborieux pour rester sans reproche au monde. Ce ne sont là que de grossières apparences, mais un effort pour croître et changer en la nature divine. Ces éléments de pureté morale sont une aspiration à l'inaliénable pureté de l'être de Dieu. Ces éléments de vérité et de bien sont la recherche d'une unité consciente avec la loi de la connaissance et de la volonté divine. Ces éléments de sympathie et de charité sont un mouvement vers l'infinitude et l'universalité de l'amour divin. Ces éléments de force et de virilité, une édification de la force et de la puissance divine. Telle est sa signification profonde. L'accomplissement éthique le plus haut est atteint quand l'être de l'homme subit cette transfiguration. Alors ce ne sont plus ses actes qui déterminent la valeur de sa nature, mais sa nature qui détermine la valeur de ses actes. Mais sa nature qui détermine la valeur de ses actes, alors il n'est plus laborieusement vertueux, artificiellement moral, mais tout naturellement divin. Dans l'action aussi, l'homme atteint à sa plénitude et à sa perfection quand il n'est plus conduit ni mu par les impulsions infrarationnelles, ni par l'intelligence et la volonté rationnelle, mais quand il est inspiré et conduit par une connaissance et la volonté divine devenue consciente dans sa nature. Et ceci n'est possible que si la vérité de la connaissance et de la volonté divine peuvent se communiquer à notre être à travers le mental intuitif, tout d'abord. À mesure que celui-ci se purifie des invasions de l'ego, des intérêts personnels, du désir et de la passion et de toutes les formes d'affirmation de la volonté personnelle, et finalement à travers la lumière et le pouvoir suprarationnel, qui n'ont plus besoin de se communiquer parce qu'ils sont présents et en possession de notre être. Tel était le but suprême des anciens sages. Ils possédaient une sagesse que l'homme rationnel et la société rationnelle ont rejeté parce qu'elle représentait une vérité trop haute pour la compréhension de la raison et un effort trop hardi et trop immense, trop infini pour les pouvoirs de la volonté humaine, normale, limitée. Il est donc du culte du bien comme du culte de la beauté et du culte de l'esprit. Même dans ses premiers mouvements instinctifs, il apparaît déjà comme une quête obscure du divin et de l'absolu. Il tend à une satisfaction absolue. Il trouve sa lumière et ses moyens les plus hauts quand il dépasse la raison. Il est accompli seulement quand il trouve Dieu, quand il crée dans l'homme quelques images de la réalité divine. Partant de ses débuts infrarationnels, pour s'élever à la plénitude suprarationnelle en passant par une étape intermédiaire où il dépend de la raison. L'être éthique de l'homme comme son être esthétique et son être religieux est en quête de l'immortel. Voilà, aujourd'hui, je termine le bien suprarationnel, chapitre 15. Du cycle humain, écrit par Sri Aurobindo. Et la veille de ce darshan de Sri Aurobindo, je me permets une infinie et immense gratitude à Sri Aurobindo et à Mère pour lire à Auroville Radio ces chapitres du cycle humain. Merci Sri Aurobindo, merci Mère. Merci Stefano, Ganga Lakshmi.